franceinter.fr.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Livre à lire, livre à proscrire, l'inlassable combat de l'abbé Bethléem.
Comme j'étais élevé par une mère très chrétienne, très scrupuleuse, mes lectures étaient très surveillées. Je me demande à quel moment j'ai commencé à lire ce qu'on appelait dans ma famille les mauvais livres.
François Mauriac. Pour indiquer les mauvaises passes et défendre le bien, il faut des phares puissants. Mauriac en est un, mais à sa façon. Les catholiques combattants de l'époque de la Troisième République, eux, ont créé la bonne presse, les bons livres. Et voici que, venu du fond de la Flandre, un prêtre entreprenant se propose de ficher tout ce qui paraît. La plus répandue de ses publications, romans à lire, romans à proscrire, se vend dans les années d'avant-guerre à des dizaines de milliers d'exemplaires et acquiert une influence considérable que tous, ou à peu près, ont préféré oublier. Son catholicisme est intégral, autrement il ne serait pas. Il ne faut pas, dit-il, abandonner un pouce de terrain. D'ailleurs, le terrain, ce peut être aussi bien que la revue, la rue, le prétoire. L'abbé Bethléem aime attaquer les kiosques qui affichent des publications pornographiques et se défendre ensuite au tribunal. C'est à certains égards quelqu'un du genre des Femmes, un activiste qui adore les combats spectaculaires front contre front. Et notre époque donc est mûre maintenant, très certainement, vu ses comportements, pour le redécouvrir. Bonjour Jean-Yves Mollier.
Bonjour Jean Lebrun.
Oui, il est oublié, l'abbé Bethléem, oublié des catholiques qui préfèrent ne pas rappeler certains de ses aspects ridicules. Vous êtes un grand historien de l'édition. Vous rappelez dans le livre que vous consacrez à l'abbé Bethléem et qui vient de paraître chez Fayard, qu'il est oublié aussi des éditeurs qui pourtant a passé des compromis avec lui.
Absolument. Dans les années 30, on peut citer deux grandes maisons d'édition, à la fois Plomb pour la littérature générale et Larousse pour l'édition scolaire, qui n'ont pas hésité effectivement à tenir le plus grand compte des conseils et avis de l'abbé Bethléem pour ne pas perdre la clientèle, en effet, ou des collèges privés ou des catholiques en général.
Bernanos, qui pouvait être édité chez Plomb, mais qui avait la dent dure contre Bethléem, qualifiait cette maison d'édition qui siégeait rue Garancière...
De veuve Garancière, mais ça c'est tout l'humour de Bernanos en effet. La
et
maison
Bethléem,
était très conservatrice.
Bethléem est oublié alors qu'il a connu une victoire posthume. Il meurt en 1940, on en parlera, et la loi relative aux publications sur la jeunesse de 1949, au fond, lui doit beaucoup.
Absolument. Il est le père de cette loi. On y reviendra tout à l'heure. L'abbé Bethléem est oublié aujourd'hui, mais ses combats ne le sont pas, parce que d'une certaine manière, vous le voyez bien, ses combats reviennent un peu à la mode. Dans les années 20, dans les années 30, il a essayé de défendre avec vigueur les perspectives de l'Église. Vous le compariez au Femen. J'aurais envie de prolonger effectivement le parallèle en disant que c'est un provocateur qui veut se faire arrêter. Exactement comme les Femen. Pourquoi veut-il se faire arrêter? Pour pouvoir bénéficier de l'audience du tribunal et de mettre les pouvoirs publics en face de leurs contradictions. Leur dire « vous ne respectez pas vos propres lois ». Il existe des lois sur la défense des bonnes mœurs, il existe des lois qui interdisent de présenter aux yeux de la jeunesse, des enfants, des publications érotiques ou pornographiques. Vous devez les respecter. Et ce qu'on a surtout oublié, c'est que le maire de Lyon radical, Édouard Herriot, le maire de Lille socialiste, Roger Salengro, ont plié devant l'abbé Bethléem.
Eh bien, vous provoquez ainsi l'attention des auditeurs, mais on va remonter, si vous le voulez bien, à la naissance de l'abbé Bethléem, à sa jeunesse. Nous sommes dans une église puissante, celle des années 1900, qui offre beaucoup de possibilités à des jeunes gens dynamiques qui sont passés par le séminaire comme lui.
Il est né en 1869 dans une famille pauvre, des tout petits paysans propriétaires de quelques petits hectares en Flandre. Son frère, comme lui, est devenu prêtre. Lui a été ordonné en 1894, son frère en 1895. Il est rapidement devenu le bibliothécaire de l'archevêché de Cambrai. Lille ne sera évêché qu'en 1913, chargé effectivement de s'occuper des bons livres. L'œuvre des bons livres, elle existe depuis 1820, elle est très ancienne. L'œuvre des bons livres a été fondée pour résister à l'attrait du cabinet de lecture, puisque les hommes, les femmes, les enfants voulaient lire des livres, autant avoir des cabinets de lecture catholiques. C'est l'ancêtre des bibliothèques paroissiales.
Voilà donc le milieu d'où il est originaire. Les sociétés de bons livres luttent contre les assommoirs de l'âme. Attendez, il y a quand même quelque chose qu'il faut que vous précisiez. Bethléem.
C'est son vrai nom. En réalité, la famille s'appelait Bedlen, mais c'est avec les déformations de la langue régionale, c'est devenu rapidement l'état civil Bethléem, et il semble que ce soit lui qui ait peut-être ajouté l'accent aigu sur le E, cette fois pour montrer que, naturellement, l'étoile de Bethléem brillait au-dessus de lui.
Zola meurt dans des circonstances un peu suspectes en 1902, juste au moment où l'abbé Bethléem va émerger. Alors l'œuvre de Zola, c'est pour lui l'abomination de la désolation. Donc à cet effet, nous avons choisi une scène paroxystique de la faute de l'abbé Mouret de Zola, adoptée dans son avant-dernier film, par Franjus, un village. Un frère ignorantin, enfin un frère des écoles chrétiennes qui est le gardien de la vertu, un prêtre, le jeune Francis Huster, vous allez peut-être le reconnaître, qui a fauté avec la jeune Albine. Et bien sûr, Satan qui mène le bal.
Votre âme est en péril. Je veille sur elle. Cette pourriture de chair n'est pas morte.
Je ne vous demande ni votre confiance ni votre pitié. Simplement votre charité.
Vous n'avez droit à la charité de personne. Vous devez expier dans le désespoir.
Hé, hey, bonjour, l'abbé.
Venez, mon frère, venez, je vous en prie.
Ne vous sauvez pas, je vous fais peur. Ah,
le gueux. J'aurais dû m'en douter. Ça sentait la charogne.
Tiens, vous promenez votre cochon avec vous, l'abbé?
Attends un peu, chien, athée, tu as craché sur l'église, je t'ai vu, tu voles les hosties consacrées pour faire avorter les filles, assassin, je t'enverrai les gendarmes.
C'est toi qui rends prison, calomniateur, Loyola.
Sorcier, tu as dû bien rire quand tu as tenu un prêtre, la nuit, tu lui soufflais dans la bouche la rage d'un chien, tu le mettais en rut.
Je vous en prie, je vous en conjure.
Vous taisez-vous, vous êtes son complice. Il vous a fait marcher sur la croix. Vous êtes infâme.
J'ai juré d'aller te couper les oreilles pendant ta classe, calotin. Ce qu'il est bête, cet ignorantin, avec ses histoires.
Et ta gueuse, c'est toi qui l'as fourré toute nue dans son lit.
Ah, imbécile.
Dans son lit, oui, c'est là, toute nue. Et tu avais mis un Christ dans le matelas pour que l'ordure tombe dessus. Je vais t'exterminer. Dieu est dans mon bras.
Bethléem, c'est pas Mouret qui est partagé. Que le doute peut habiter, c'est Arcanjas, le frère ignorantin, le calotin, qui dit « Dieu est dans mon bras ».
Oui, c'est exactement au fond ce qu'aurait pu dire l'abbé Bethléem. L'abbé Bethléem ne doute pas. S'il doute, c'est dans le secret de son cœur ou dans le secret de la confession. Mais par rapport au public, par rapport à ses lecteurs, lecteurs du livre best-seller dont vous avez parlé, « Romans à lire et romans à proscrire », lecteurs de ses revues et magazines, « Romans revues » de 1908 à 1914, puis « La revue des lectures de 1919 à 1939, une revue des lectures qui est aussi une revue du théâtre, une revue de la radio, du cinéma. C'est en quelque sorte Télérama d'aujourd'hui, avec le côté laïque de Télérama en moins, bien entendu. Il défend un idéal. Donc Dieu est dans son bras, Dieu est surtout dans l'encre qui coule de son stylo. Et d'ailleurs, il en a une certitude qui est renouvelée par le fait que tous les papes qui se succèdent à Rome à l'époque où il est prêtre le soutiennent. Le soutiennent avec Pidis en le recevant en audience privée et en déclarant que son œuvre est magnifique, opus mirificum, on parle encore le latin dans l'église de l'époque. Les papes ensuite qui vont se succéder, Pie XI notamment, qui dans deux encycliques va célébrer le combat mené par l'abbé Bethléem.
Au début de l'abbé Bethléem, dans les années 1905-1908, le grand écrivain catholique Léon Blois, un des auteurs préférés du pape actuel, avait dit « Mais ses supérieurs sont inexcusables de ne pas l'avoir muselé ». Alors vous nous dites qu'ils ne l'ont pas muselé, qu'au contraire, ils l'ont encouragé.
Et l'abbé Bethléem a répondu à Léon Blois en montrant qu'effectivement, c'était une plaisanterie méchante. Les catholiques ne lisaient pas Bethléem, certains d'entre eux peut-être, pour regarder les mauvais livres. La plupart le lisaient pour savoir ce que pouvaient lire leurs enfants, leurs femmes, leurs domestiques, tous ceux dont ils avaient la charge. C'est en ce sens que le combat de l'abbé Bethléem est un combat qui dépasse évidemment celui d'un homme qui aurait déclaré la guerre à l'ensemble de la littérature de son temps.
Alors la littérature, vous parliez du théâtre, il faisait des bonnes recommandations en matière de théâtre, le théâtre du peuple, de la famille Potcher dans les Vosges, les grands opéras.
C'est un homme de culture. Il connaît parfaitement la littérature française. Il connaît également très bien la langue latine qu'il manie avec dextérité. C'est un homme qui aime les romans. Même quand il les défend, il essaie de sauver les romanciers. Il n'aime pas George Sand parce que pour lui, elle représente au fond l'idéal laïque et même le communisme. Mais il dit aux catholiques, vous pouvez quand même lire les romans de la Pastorale, La Petite Fadette, La Mare au Diable. Il n'aime pas Victor Hugo, mais lisez quand même les morceaux choisis. Le théâtre, c'est la même chose. Il va sans arrêt au théâtre. Il est même allé aux représentations du théâtre d'Antonin Artaud. C'est la preuve, même s'il a condamné naturellement Antonin Artaud, c'est la preuve de son ouverture d'une certaine manière. Simplement, son ouverture ne va pas jusqu'à autoriser ses lecteurs ou ses auditeurs à regarder, à écouter ou à lire n'importe quoi.
Donc vous avez une certaine admiration pour l'admirateur qu'il était de Claudel et d'Artaud. Il est même moins Courteline. Ici, c'est le train de 8h47 d'où descendent au théâtre, adaptation cinématographique ici, deux permissionnaires qui aussitôt cherchent en ville de quoi passer un bon moment.
Salut les fraternités.
On pourrait vous demander un petit renseignement?
Et pourquoi pas?
Voilà, Croquebol et moi, on est en permission. On voudrait vous demander où se trouve le chose, le machin.
Le chose?
Oui, le truc quoi.
Et quel truc?
Les femmes.
Oh, et c'est à moi que vous demandez ça? Mais vous ignorez à qui vous parlez? Je suis conseiller municipal.
Alors, vous savez pas où ça se trouve?
Si, comme tous les autres. Seulement, vous comprenez, citoyens, il vaudrait mieux me demander où se trouve la bibliothèque, les monuments historiques. Je parie que vous connaissez pas la ville.
Oh, pour ça, vous avez gagné.
Mais comment faire pour vous expliquer ça? Tenez, c'est par là.
Par là?
Vous allez venir avec moi tous les deux. Et malgré mes principes, comme vous êtes décidé à vous livrer à la débauche, ben, je vous déposerai devant la porte. Ça vous va-t-il, cette affaire-là?
Je comprends que ça va.
Eh bien, alors en route, hein.
Alors, les Truffians, c'est Bach et Fernandel. Ils s'intéressent beaucoup à l'infanterie, enfin, aux publications destinées au grand nombre. On peut prendre un exemple. Il a senti l'importance du sujet. Les publications pour enfants qui appellent à la plus grande vigilance, Jean-Yves Molière.
Oui, là encore, les choses sont complexes. Il ne s'oppose pas à la bande dessinée. Il n'a aucune prévention contre un art nouveau. Il adore le cinéma. Il considère que c'est la plus grande révolution depuis les années 1830. Ce qui veut dire que c'est un moderniste par le côté au moins de la technologie. Mais naturellement, c'est un conservateur au niveau des contenus. Il n'a rien contre La Semaine de Suzette. Il aime Bécassine de la même manière qu'il aimera Tintin. Mais il déteste les publications laïques des frères Hofenstadt et notamment Les Pieds Nickelés. Et comme les Hofenstadt sont à la fois d'origine allemande et puis juif, et la Bethléem est évidemment antisémite, anti-maçon, anti-protestant, il est sur la même longueur d'onde que Charles Maurras. Il attaque les quatre États confédérés. Le quatrième, c'est les métèques, les apatrides, les étrangers. Il est contre tout cela. Donc effectivement, il va s'en prendre avec violence aux publications pour la jeunesse dont il considère qu'elles présentent un danger. Dans les années 30, au milieu des années 30, il détestera le journal de Mickey, il détestera Hourra et Tarzan, donc à la fois Paul Vinclair, Opéra Mundi, les États-Unis, et puis de l'autre côté, Cino del Duca et l'Italie.
Mais revenons à la source du mal dans ce domaine, c'est l'épatant, ici défendu par Pierre Tchernia, et dont la vie est très longue, puisque Les Pieds Nickelés apparaissent sans cesse au cinéma.
Ben, j'aime Les Pieds Nickelés d'abord parce que c'est vulgaire. J'aime bien les choses où le rire est simple, franc et direct. Chez Les Pieds Nickelés, le rire est simple, franc et direct. Et puis il y a, dans Les Pieds Nickelés, une espèce de satire de la vie sociale de leur époque. Il y a tout un numéro sur l'exposition coloniale, avec les blagues que font Les Pieds Nickelés, où ils montent des restaurants délirants, où on sert de la soupe dans des seringues, dans l'assiette des gens. Il y a des tas de plaisanteries de ce genre.
Je m'appelle Le Noir, commissaire Le Noir. Celui que je tiens principalement à avoir... personnellement, c'est Croquignol. Je l'aurai.
Inspecteur Bildius, adjoint du commissaire. Celui des trois que je vais avoir personnellement, c'est Filochard. Et je l'aurai.
Inspecteur Vergadin, moi c'est Riboudin. Et celui-là, je l'aurai.
Ce sont des petits escrocs qui font de petites escroqueries, qui se font rouler dans la farine ensuite par plus malin qu'eux. C'est ce qu'on appelle les plaisanteries de garçons de bain en général. Et puis en plus de ça, sur le plan... littéraire, si on peut dire, je trouve que Les Pieds Nickelés, c'est très bien fabriqué.
Avec une vie donc très longue, puisque ça commence avec la bande à Bonneau, et là on entendait Blanche, Julien Carrette, Jacques Joanneau, qui jouaient les policiers des Pieds Nickelés. C'est au nom d'une liberté fondamentale, celle des pères de famille. Là on est dans une thématique d'aujourd'hui.
Oui,
qu'il faut observer les publications pour enfants.
Oui, dans les années 30, les familles nombreuses sont à la mode, bien plus qu'aujourd'hui. Parce que la saignée de la guerre a été telle que la France, qui avait 1 million d'enfants avant 1914, n'a plus que 600 000 à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. On monte en épingle les familles de 7, 8, 9, 10 enfants. On trouve dans des publications catholiques, sous la plume d'un grand juriste de l'époque, l'affirmation selon laquelle un ménage normal qui s'est marié entre 20 et 30 ans doit avoir 10, 11, 12 enfants ou davantage. Évidemment, cela ferait frémir d'horreur n'importe quelle jeune fille catholique aujourd'hui. Mais telle était l'époque.
C'est au nom du droit des pères de famille qu'il faut aussi combattre sur les plages le nudisme. Pendant 3-4 ans, il s'occupe de ça. Il allait, sous tanneau vent, observer ce qui se passait hors des cabines.
Oui, reprenons d'ailleurs le
fil. Et dans les corps qui n'étaient pas recouverts de peignoirs.
Absolument. Reprenons le fil de ses combats. Il a combattu la mauvaise littérature. Il a combattu également les mauvaises pièces de théâtre, les mauvais opéras. Puis il est passé aux pièces de théâtre à la radio. Il est passé au cinéma. Et son dernier combat, c'est pour moraliser les plages, moraliser les loisirs. Et il s'attaque effectivement aux congés payés avant même 1936, parce que les loisirs se sont développés, et il refuse effectivement l'idée que l'on pourrait aller sur une plage sans passer par une cabine, revêtir un peignoir. Dois-je rappeler aux auditeurs qu'évidemment le maillot de bain est un maillot une pièce, qu'il commence en dessous du cou et qu'il va jusqu'au genou. On est très loin du bikini de l'après-Deuxième Guerre mondiale.
Paul Colline, dans les années 30, qui cite un auteur, Raymond de Machard, féministe, qui doit être à l'index particulier de la bébé Bethléem.
Ah oui, il la déteste.
Elle aussi.
Être nudiste, assurément, ça a des avantages et des inconvénients. C'est parfois gai, c'est parfois triste d'être nudiste. La première fois, somme toute, qu'on est exposé à tous les regards, aussi nu qu'un roman de Raymond de Machard, qu'on soit homme, femme ou gamin, on ne sait pas où mettre ses mains, on ne sait pas où mettre ses pieds, on ne sait pas où mettre ses clés. Quand on est avec des nudistes qu'on ne connaît pas, ça va encore. S'ils voient tous les défauts de votre corps, voir les leurs est un réconfort. Mais le terrible, c'est de rencontrer quelqu'un tout nu que l'on connaît, car être à poil pour se dire des choses banales, comme celles que toujours on dit, « Tiens, bonjour, comment vous ici ?» Pendant qu'on s'examine des yeux à la dérobée, c'est odieux. Pour moi, tout alla bien pourtant jusqu'au moment où, apprenant que j'étais chansonnier un jour, on me demande à mon concours pour une fête de charité et je suis forcé d'accepter. Des galeries jusqu'au fauteuil, la salle, pleine de nudistes, offrait un drôle de coup d'œil. Quand ce fut mon tour de chanter, je crus vraiment ne pas pouvoir. Et malgré tous les faits que tout nu j'ai pu faire, je vous jure que je préfère toute ma vie ne plus en faire et chanter le soir en smoking. C'est parfois gai, c'est parfois triste d'être nudiste.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Heureusement, à l'horizon des plages nudistes, il y a un phare, celui de l'abbé Bethléem. Jean-Yves Mollier est notre invité aujourd'hui qui vient de publier chez Fayard L'impossible combat de l'abbé Bethléem, la mise au pas des écrivains. Alors, plaçons-nous du point de vue de la littérature. Maintenant, si vous voulez bien, Jean-Yves Mollier, qu'est-ce qu'il défend pour le vulgum pecus, on va parler latin comme pidis, pas pour les élites, pas pour les élèves des collèges jésuites, mais pour les femmes, je ne sais pas, d'Élie, ça vous dit quelque chose, d'Élie, chers auditeurs?
Oui, bien sûr, Délie fait partie des romans à lire, des romans qui sont effectivement vivement conseillés par l'abbé Bethléem. Mais
qu'est-ce que c'est Délie?
Délie, c'est un univers très moral, un univers, je vais dire, qu'on pourrait comparer en le transposant pour les enfants à l'univers d'Enid Blyton, l'univers du Club des Cinq. C'est-à-dire que les règles, au fond, habituelles de la morale traditionnelle sont respectées. Parfois, le héros ou l'héroïne peut commencer à légèrement les transgresser, mais ils s'arrêtent toujours en chemin. Il n'y a jamais de transgression. On sait vivre en fonction d'une morale relativement traditionnelle, relativement acceptée par tout le monde.
Donc il y a de beaux mariages, les bergères peuvent devenir princesses.
Non, attention, l'abbé Bethléem refuse, comme Pierre Jules Hetzel, la littérature pour gouvernante. Il considère que ça c'est de la tisane. Il ne veut pas de cela. Il veut de véritables récits, il veut de la fiction, il veut de véritables héros, il veut que des romanciers soient capables effectivement de présenter des êtres qui sont comparables à ceux que l'on croise dans la vie réelle. Donc il veut de la vraie littérature.
une lectrice de bons romans selon l'abbé Bethléem. C'est un reportage extraordinaire, assez tardif, on est après-guerre, l'abbé Bethléem est en fait mort. Gérard Pabiot, pour la télévision, repérait des atmosphères tout à fait uniques. On est dans une petite ville de Bourgogne.
Autun dans le Morvan, 25 000 habitants, 43 lecteurs des Veillées des Chaumières assurent Mademoiselle Gerfagnon la libraire. C'est là que vit Hélène Vigier, la fille du dernier allumeur de réverbères parisien, aujourd'hui mariée au jardinier du Grand Séminaire, et qui, depuis l'âge de 14 ans, ne raterait pas pour un empire la parution de sa Bible hebdomadaire.
J'aurais pu faire un mariage plus argenté. Eh bien, j'aimais mon jardinier, j'ai épousé mon jardinier. Nous avons eu 5 enfants. Cette ville d'Autun, j'y ai trouvé tout à fait mon climat. Son calme, ses petites rues, son silence, et puis les grands jardins derrière les portails, les maisons vives d'une vie renfermée sur leurs richesses intérieures. C'est vrai qu'on veille encore à Autun, c'est vrai qu'on parle, qu'on raconte, qu'on a tout de même le temps de penser. Les héroïnes des Veillées des Chaumières se trouveraient très à l'aise pour évoluer. C'est le contraire de la pin-up, c'est la femme au foyer, c'est l'amour du mari, des enfants, c'est le goût du bonheur, c'est l'épanouissement dans les tâches ordinaires. C'est tout un idéal qui a été vécu réellement par notre génération et qui continue à inspirer des quantités de femmes.
Les Veillées des Chaumières qui paraissaient 2 fois par semaine, qui paraissent d'ailleurs encore.
Chez Gauthier Langros, ouais. L'éditeur de La Semaine de Suzette et de Bécassine.
Mais j'allais tombé dire... dans l'escarcelle de Mondadori.
Absolument. Voilà. J'allais dire, heureusement pour la pauvre Mademoiselle Gerfagnon, qu'elle a oublié que l'évêque d'Autun avant la Révolution française, c'était Talleyrand. Sinon, elle n'aurait pas dit exactement la même chose. Mais en même temps, elle nous introduit effectivement dans un monde qui a pour une large part disparu aujourd'hui, dans un monde au fond très stable, un monde sécurisé, où on sait où est le bien, on sait où est le mal, les frontières sont bien délimitées, et du coup, c'est très rassurant, c'est très apaisant.
Mais deux marches plus haut que les Veillées des Chaumières à Autun, il y a Marie-Noël, poète catholique à Auxerre, une ville où les volets sont clos aussi,
et
assez
qui est cité.
Tôt. Et... Oui, mais il n'y a apprécié. Pas beaucoup de volupté chez Marie-Noël, ni non plus, bien sûr, dans les Veillées des Chaumières.
Non, mais l'abbé Bethléem accepte finalement un certain nombre d'écrivains, y compris étrangers, d'écrivains américains, d'écrivains anglais. Il aime Stevenson. Donc on se tromperait en croyant qu'il réduit effectivement, je le répète, à la littérature de gouvernante, à Delhi ou à quelques auteurs comme Marie-Noël, la littérature qui est autorisée. Il est plus malin que cela, je dirais. Parce qu'il s'intéresse effectivement aux lectures pour tous. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la lecture des jeunes gens qui sont confiés aux institutions religieuses. Là, il n'y aura aucun problème. Il s'intéresse à l'ensemble des Français de l'époque, tous ceux qui peuvent effectivement rencontrer le livre quelque part.
Oui, mais alors là, justement, il faut faire des sélections. On ne peut pas donner Bernanos, pourtant grand écrivain catholique, à n'importe qui, parce qu'il donne une image du curé coincé, crucifié, terrible.
Mais pourtant, l'abbé Bethléem a apprécié et accepté les premiers romans de Bernanos. Il s'est fâché avec Bernanos au moment, évidemment, de la guerre d'Espagne. Et c'est donc pour des raisons politiques qu'il va condamner Bernanos en 1938 et non pas à cause du contenu des premiers romans.
Oui, enfin, il est fâché aussi assez vite, dès le milieu des années 20, avec François Mauriac, qu'on entendait au tout début de l'émission. C'est un plaisir de le réentendre.
Je crois que le vrai problème, à propos de mes personnages, c'est au fond celui de l'amour humain.
Il y en a qui disent que c'est très agréable. Moi, je crois pas que ça me plairait.
Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as essayé?
Au couvent, il y a des filles qui font toutes seules la nuit.
Oui, ben.
C'est un péché.
Ben, un péché agréable, peut-être.
Arrête de te moquer de moi.
Je vais me marier, toutes mes idées vont rentrer dans l'ordre. Et ça va me sauver, Annette, le mariage. Ça va me sauver de tout ce désordre dans ma tête. J'ai choisi la paix.
La paix, c'est pas intéressant. Dans les romans, quand on parle d'amour, on parle pas de paix. On parle d'extase, de ravissement, de transport amoureux.
Le vrai drame de la plupart de mes personnages tient dans le titre d'un de mes romans, Le désert de l'amour, et que c'est un drame de désespoir, mais qui a été un drame de souffrance, en fait.
Qu'est-ce qu'on fait avec Thérèse Desqueroux, dont on entendait un extrait, adaptation de son dernier film de Claude Miller,
Audrey La Bébé-Tléhem,
Anaïs Desmoustiers, qui chuchotait des confidences sur l'oreiller.
Oui, La Bébé-Tléhem refusera complètement l'œuvre de François Mauriac, parce qu'il l'accuse au fond d'être un catholique en désaccord avec les principes religieux que pourtant il défend en tant qu'homme. Je m'explique, on est à une époque où les catholiques sont censés accepter de se soumettre à la censure d'un censeur ecclésiastique. Or, à la différence de Bernanos et de Claudel, qui ont accepté la censure ecclésiastique et qui ont remanié les premières de leurs œuvres en fonction des conseils qui leur étaient donnés, Mauriac a toujours refusé. Donc, en effet, pour les Bethléem, Mauriac, c'est l'ennemi à l'abattre. C'est un faux catholique qui se déguise et qui fait courir plus de dangers aux catholiques. Donc la Bethléem est très fière quand des femmes catholiques lui écrivent qu'elles ne liront pas Thérèse Desqueroux.
Dans le Mauriac, c'est un auteur dont la croix est plantée dans le péché, ce qui est impensable. 1940, il mourra, la Bethléem, dans l'amertume de la défaite. Il évitera aussi peut-être un certain nombre de problèmes qu'il aurait pu connaître pendant l'occupation ou à la libération. Néanmoins, il va remporter, dites-vous, une victoire posthume en 1949, parce que c'est autour des thèmes qu'il avait manipulés que se produit une conjonction, une alliance extraordinaire qui aboutit à une loi, juillet 1949, relative aux publications sur la jeunesse, toujours en vigueur.
Cette loi, elle a été d'ailleurs préparée dans les années 30 par le fait, je l'ai dit tout à l'heure, qu'un certain nombre d'édiles municipaux ont accepté effectivement de nommer des commissions de censeurs, qui étaient des commissions de pères de famille, pour regarder les spectacles qui allaient être projetés ou qui allaient être joués dans les salles de théâtre, dans les opéras, à Lyon, à Marseille, un peu partout en France. En 1939, le vote du Code de la famille a été la deuxième grande victoire de l'abbé Bethléem, sous l'action du cartel d'action morale, qui va devenir le cartel d'action morale et sociale en 1945. Et en effet, la loi du 16 juillet 1949, qui est voté par l'ensemble des forces politiques. Le Parti communiste votera contre, mais en fait, dans les deux années qui ont précédé, il était entièrement d'accord. Donc on peut dire que c'est une loi qui fait l'unanimité. Cette loi, elle est censée protéger la jeunesse, l'enfance, contre les dangers qui la menacent. Il y a des raisons circonstancielles. Le nazisme, comme le fascisme italien, ont effectivement encadré la jeunesse. Donc on ne veut pas que cela recommence. Mais au-delà de cela, on considère qu'effectivement, on ne peut pas laisser les enfants et les adolescents décider eux-mêmes quelles sont les bonnes lectures. Il y a un problème dont on n'a pas parlé. C'est au fond la lecture bovariste que font un certain nombre d'éducateurs dans les années 30, comme ils le faisaient déjà au 19e siècle et comme ils le font au début du 21e siècle. Cette fausse idée selon laquelle le lecteur va immédiatement se précipiter pour imiter les héros. Le fait que le lecteur ne soit pas capable d'une certaine distance, c'est oublier, Aristote l'avait pourtant déjà dit, le principe de la catharsis. Combien de criminels ne sont jamais passés aux actes pour avoir lu des romans policiers ?
Néanmoins, Jean-Yves Mollier, imaginons que le gouvernement socialiste veuille transformer aujourd'hui la loi de 1949. Immédiatement, un certain nombre de personnes, sans parler des considérations politiques immédiates, diraient, peut-être à juste raison, qu'il ne faut pas immerger la jeunesse dans un univers de violence tel que celui qu'on trouve dans nombre de jeux vidéo et qu'il faut essayer de pratiquer au nom de la liberté des pères de famille un contrôle parental.
Oui, je pense que d'ailleurs aucune force politique aujourd'hui n'oserait proposer la suppression de la loi. En fait, la commission qu'elle a mise en place ne se réunit quasiment plus. Donc d'une certaine manière, elle est caduque. Mais elle demeure inscrite dans le marbre de la loi comme une sorte de menace. Le problème qu'on ne souligne pas assez, c'est que cette loi, elle n'a pas seulement protégé, entre guillemets, l'enfance et la jeunesse d'un certain nombre de publications ou d'expositions, mais elle a aussi servi à condamner des œuvres qui n'ont jamais été destinées aux enfants.
Merci à vous, Jean-Yves Mollier, votre livre aux éditions Fayard. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec Aveline Carmois à la technique et pour la préparation, Frédéric Martin.